Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique numéro 18 d'aujourd'hui a pour titre « L'honnêteté chassée avec l'or épuisé ». Dans l'actualité économique, et tout d'abord dans l'actualité économique générale, il apparaît très clair que la France est le dernier monstre totalitaire de la planète devant la Chine communiste, et qu'il vit actuellement une situation qui n'est que la conséquence du travail communiste, de sa politique et de ses parasites. Le rapport Jean Chaoussa rappelait dans les années 80, chaque fois que la population d'âge actif a augmenté de 100, les pays du G7, pris dans leur ensemble, dont la France, ont créé 68 emplois privés, 11 emplois publics, 18 chômeurs, 3 inactifs. La France, prise isolément, quant à elle, a détruit 18 emplois privés, créé 27 emplois publics, 45 chômeurs et 46 inactifs. Les fonctionnaires chargés de faciliter l'implantation d'entreprises dans les années 90 y firent obstacle au prétexte que l'État ou la collectivité locale, souvent, avait déjà ou allait réaliser la même chose, bien sûr en mieux, en plus gros, en plus honnête, en plus performant, que jamais, évidemment, les privés ne sont réputés par eux capables de le faire. J'ai personnellement vécu ce cas où, en plus, les fonctionnaires prétendaient arracher des enveloppes aux malheureux candidats créateurs d'entreprises, déjà au bout de toutes ces possibilités. Sans corruption discrète, aucune autorisation. Pour l'avoir dénoncé, c'est moi qui ai eu des ennuis. Et sur quel ton, de la part de ces fonctionnaires et soldats, dont Victor Hugo dénonçait dans son Histoire d'un crime la beauté, sic, de l'obéissance passive. François de Clauset, dans son Tant et plus de 1992, dénonçait le fait que la moitié de la France vivait aux dépens de l'autre moitié. Il disait ceci, « L'augmentation des prélèvements, loin d'améliorer notre société, lui permet de préserver ses défauts. Lorsque le bien commun est ainsi dilapidé, les citoyens renoncent à combattre cette perversion et s'efforcent d'en tirer profit, chacun pour son propre compte. Les Français répondent au tant et plus de la dépense collective, parlent toujours plus de leurs réclamations individuelles. Encore amplifié par les immigrants quémandeurs professionnels et le million passé d'associations diverses, souvent devenues des niches à subventions sur impôts au bénéfice des copains et des coquins dénoncés par JMLP en 2001-2002. Résultat, une collectivité prit la place de la société. Les individus égoïstes ont oublié la force de la solidarité. Cette politique de la division, qui n'est que celle des escrocs, conduit tout droit à l'anéantissement des capacités de production de biens réels. C'est la situation conséquente de nos jours. La France, qui compte 5000 km de côte métropolitaine sur trois mers, a perdu 98% des emplois liés à la mer le long de ces mêmes côtes, sans parler de la destruction des emplois potentiels. Le pillage étranger de nos eaux économiques s'étend jusque dans nos ports. Le monde agricole, fortement enraciné au terroir magnifique du pays, a perdu en 60 ans plus de 3 millions d'emplois. Les terres furent phagocytées par les villes nouvelles et le reste mis en jachère et même réempiéré sur ordre de Bruxelles pour faciliter le contrôle satellitaire malthusien. Les industries disparaissent, les commerces sont presque toujours fermés et pour vivre quand même à travail réduit, affichent des prix exorbitants. Les ponctions socialistes ne cessent d'augmenter. Les réclamations augmentent proportionnellement aux prélèvements. Et c'est logique, car les gens n'y arrivent plus depuis longtemps. Pierre-Jean Vaillard, il y a je crois environ 40 ans, tout comme ses collègues chansonniers si appréciés sur la seule chaîne de télévision des années 50-60, Raymond Souplex, Robert Roca, Jean Amadou et d'autres, chansonnaient ainsi le régime oppresseur. Votre grand argentier nous prend bien pour des cons, j'ajoute, et ses sbires complices, et réclamant encore et toujours du pognon, tout le monde est saisi par un affreux vertige, en cauchemar atroce, devant nos caisses vides. J'ai demandé un jour à Philippe Séguin, alors président de l'Assemblée nationale, par écrit, comment il faisait pour ne pas arriver à ne pas voir que les 1500 milliards de francs de recettes budgétaires, c'est-à-dire les impôts, votés alors par son Assemblée, étaient impayables, puisque la masse monétaire en circulation n'était que de 300 milliards de francs. 5 fois plus d'impôts que toute la monnaie officielle en circulation et même la non officielle à l'époque. Pas de réponse, silence complet, silence coupable. Dans l'économie monétaire et financière, il est donc évident que depuis 1973 environ, le recours au crédit bancaire est devenu le seul moyen pour les ménages de payer la masse d'impôts. Et quelque part dans les années 80, je dénonçais le fait que la sommation de tous les crédits des ménages équivalait alors à la sommation des impôts impayables votés par ceux qui devraient les refuser, nos parlementaires élus. En somme, si vous ne pouvez acheter une voiture qu'à crédit, c'est parce que toutes vos capacités d'épargne ont été volées, et même au-delà, par les prélèvements obligatoires, dont tous les complices du régime, notamment la médiacratie, soulignent qu'ils s'élèvent à seulement, sic, 43% du fameux PIB en 2009. Outre que l'OCDE obtient toujours un pourcentage plus élevé de l'ordre de 51 à 57% suivant les années, je dois vous dire que chaque fois que la collectivité embauche un fonctionnaire ou apparenté, directement ou indirectement, le PIB augmente, car la consommation des prélèvements obligatoires par les administrations publiques est comptée comme une production. Il s'agit d'un trucage. Je l'ai depuis 40 ans contourné pour moi-même, en comparant les prélèvements obligatoires à la masse monétaire totale M3 et plus précisément à la masse monétaire officielle M1 seulement. Au lieu de la comparaison classique, actuelle, toujours affichée avec le PIB. Alors là, asseyez-vous bien et tenez-vous encore plus fort au bras de votre fauteuil. Prêt ? Depuis près de 40 ans, la totalité des prélèvements obligatoires a toujours dépassé et progressivement de toujours plus la masse de monnaie officielle M1 en circulation. En France, en 2009-2010, les prélèvements obligatoires totalisent autour de 900 milliards d'euros, ce sera plus de 940 l'année prochaine en 2010, pour une masse monétaire officielle en billets et pièces de 150 milliards d'euros seulement. C'est-à-dire que les prélèvements obligatoires s'élèvent à 6 fois la masse monétaire fiduciaire ayant cours légal et forcé. Les prélèvements obligatoires atteignirent même en 2005 105% de la masse monétaire totale M3, y compris avec la monnaie scripturale des banques. Quand on dépasse, comme Mitterrand, alors les 100%, il n'y a plus de limite à l'accroissement du pouvoir étatique qui prend et redistribue à son gré ce qu'il crée d'un côté et consomme de l'autre, asservissant tout le monde aux banques depuis 1980 sous VGE. Un État, une collectivité gérée en bon père de famille devrait ne dépenser que, disons, le tiers maxi de la monnaie disponible comme on impose cela aux ménages pour un loyer ou un crédit. Donc la dépense devrait rester en dedans les avoirs préalables et disponibles en monnaie légale. Au-delà de 100%, on ne vit plus qu'à crédit. On est drogué à mort de monnaie crédit bancaire et l'État nous réduit au servage des banques. Le monstre totalitaire a donc obtenu des banques une augmentation énorme de la masse de crédit en circulation afin de masquer la réalité. M3 atteint les 1648 milliards d'euros en 2009, donc près du double des PO. Ce qui veut dire que tout le monde nage jusqu'à sombrer dans la monnaie crédit. Mais le monstre totalitaire ne cède pas. Il veut vivre au-dessus des moyens qu'il nous laisse, quitte à faire crever les producteurs, à scier la branche sur laquelle il est assis. Sa mort annoncée tarde trop. Les producteurs crèvent. La France devient un désert. gouffre à importation impayable et à tourisme insuffisant pour même espérer payer une partie de tout ça. Il faut couper les vivres aux monstres, cesser tout paiement d'impôts, bref, se battre. C'est une question de vie ou de mort. Mon conseil patrimonial du jour consistera dans le rappel de ce que la déontologie du conseil financier véritable nous obligeait à bien préciser à nos clients lorsque j'étais en 1980-81 fondé de pouvoir puis sous-directeur de la société en commandite simple du groupe Rothschild, son établissement de portefeuille, on dit holding en anglais. On disait « dans l'état actuel de la législation ». Cela appuyait la nécessité de ne choisir des investissements qu'en fonction des réalités financières prouvées du dit investissement. Jamais en fonction d'avantages fiscaux, changeant au gré des élus politiques aux abois, toujours prêts à se diluer, à disparaître d'une année sur l'autre. Et vous voyez encore ce qui en fait en effet aujourd'hui, actuellement. L'État n'a plus de parole, alors qu'il est connu qu'il n'a plus d'honneur depuis son assassinat de Louis XVI. Ne choisissez jamais un investissement en fonction prioritairement des pseudo-avantages fiscaux vantés par des complices du système qui ignorent la déontologie. Exemple, à quoi bon mordre à l'hameçon à gogo d'un avantage fiscal de 60% d'une somme quelconque si vous ne payez pas d'impôt IRPP, et en plus prévu pour seulement l'année considérée, sans aucun engagement de l'État dans la durée. Dans mon histoire de la monnaie, chapitre 18 d'aujourd'hui, le titre « Le stock d'or épuisé ». La crise de 1929 fut analysée par ceux qui y avaient intérêt, à savoir les anglo-saxons, comme une crise de liquidité. Il fallait entendre par là la constriction sévère des signes monétaires en circulation, dont la dictature des règlements en or, cette relique barbare, était la cause annoncée officiellement avec l'emploi des parités fixes. Dès 1929-1934, il fut donc planifié de faire sauter le système et une guerre était nécessaire sur le continent européen qui ne devait évidemment pas toucher le territoire britannique ou le moins possible. La destruction complète de l'économie franco-allemande fut planifiée au moyen de bombardements des villes, des usines, des routes sur tout le continent. On sait que depuis toujours, les guerres épuisent la monnaie. Cela permettait donc de prévoir la réunion en 1944, à Bretton Woods, évidemment, qui allait doter le monde d'un nouveau système monétaire favorable aux anglo-saxons. Ce système allait donner à la livre sterling encore, puis après une période transitoire au seul dollar US, une valeur réputée aussi bonne que l'or, sur la base d'une parité fixe entre lui et l'once d'or de 35 dollars US. Ce fut le système dit du Gold Bullion Standard, mais ce système ayant permis très vite d'échafauder une double pyramide du crédit, la création d'une quantité de dollars fut telle qu'il se dévalua très vite malgré quelques efforts, plus d'aménagement que de résistance véritable, par exemple avec l'institution de 1961 à 1967 du double marché de l'or, officialisé le 17 mars 1968. Entre-temps, le système avait donc évolué vers le statut de Gold Exchange Standard, par lequel seules les banques centrales pouvaient réclamer le règlement en or au Federal Reserve Board. Ce que la France fit d'ailleurs jusqu'au dernier moment en 1973 sous Pompidou. La livre sterling fut dévaluée en 1967. Très vite, Margaret Thatcher déconnecta complètement la livre sterling des règlements internationaux en remboursant progressivement mais sûrement les fameuses balances livres. Car être une monnaie de réserve n'est pas une sinécure pour des gens honnêtes. Mais revenons à 1945. Le stock d'or de Fort Knox était de 40 milliards de dollars US. La moitié fut donnée vraiment à l'Europe pour l'aider à se reconstruire des bombardements américains. Suivez mon regard. Ce fut le plan Marshall. Mais tout le monde a prêté à ce plan une motivation généreuse et désintéressée, oubliant les bombardements inutiles et leurs sources, qui n'était pas allemande, mais anglo-saxonne. En fait, ce plan procura un retour sur investissement aux USA pour 20 milliards de plus de 6 000 milliards en 50 ans. Progressivement, la pyramide inversée des liquidités en dollars devint tellement énorme que les réserves de Fort Knox étaient menacées. Après avoir dévalué le dollar de 100% en 1971, de 35 à 70 dollars l'once, le dollar fut définitivement décroché de l'or en 73. Le fameux nouveau système inventé depuis 1929 allait enfin être officialisé après une période de stupéfaction de 3 ans, en 1976, par la conférence de la Jamaïque. VGE signa avec les autres le nouveau système monétaire international. Ce système concrétisait toutes les aspirations des Américains, désormais affranchis de toute menace de demande de remboursement en or des 1 000 milliards de dollars de l'époque. Les monnaies n'étaient plus liées à l'or, qui fut progressivement démonétisé par étapes successives et même retiré des réserves de change des banques centrales en 1985. L'or ne servait plus au règlement ni privé ni officiel. Il fut même interdit d'en posséder aux USA, sauf en bijouterie. Le stock de liquidités en dollars devint gigantesque, avec 2 000, puis 10 000, puis 30 000 milliards de dollars US en circulation. Depuis lors, le stock d'or épuisé gît dans les coffres des salles souterraines des banques centrales nationales. Il s'élèverait à un peu plus de 20 ans de production, et bientôt il ne sera plus que le stock survivant en coffre, la relique barbare d'un système monétaire ancien. Désormais, c'étaient les monnaies elles-mêmes qui se garantissaient entre elles, une sorte de serpent qui boufferait la queue du suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier bouffe la queue du premier. L'ensemble des serpents monétaires, grossissant ainsi en se dévorant les uns les autres, dans une stabilité en apparence parfaite, que ne troublent que quelques ajustements qui arrivent de plus en plus souvent quand même, jusqu'à devenir permanents, quotidiens. Ce système est baptisé taux de change flottant. Tout le monde sait, depuis 71-73, qu'il est le moyen idéal de transférer le chômage du pays débiteur vers le pays créancier, donc des États-Unis vers la France, vers l'Europe, à l'époque. Le chômage ne menaça plus les USA, mais envahit la France, qui était la plus fragile, comme par hasard. Jacques Rueff disait dans son livre resté célèbre et totalement incompris, Le péché monétaire de l'Occident, encore hier, on en citait des extraits, qu'il fallait que les systèmes monétaires obligent les pays débiteurs à perdre effectivement le pouvoir d'achat international gagné dans le même temps par les pays créanciers. Pour apurer le passé, Jacques Rueff ajoutait, il faut remarquer qu'il fallait rembourser tous les dollars et autres monnaies en circulation avec de l'or. Pour ce faire, à l'époque, il suffisait de mettre l'once d'or à 400 dollars l'once. Elle était à 70. Elle est aujourd'hui maintenue artificiellement à un cours de 1060 dollars. Il faudrait certainement la mettre à plus de 100 000 dollars US en 2010 pour tout rembourser et remettre le système international et privé sur des bases saines. Bref, le stock d'or est épuisé aux valeurs actuelles, compte tenu de l'hyperinflation de signes monétaires, d'abord papier puis électronique. Le seul moyen de le voir rétablir des règles honnêtes dans les règlements est de réévaluer l'or ou de rabaisser les prix exprimés en signes monétaires de plusieurs milliers de fois, ce qui équivaut au même. Mais personne, chez les banquiers et leurs pantins chefs d'État, n'a intérêt à devoir payer pour de bon ce qu'il arrive à avoir gratuitement grâce au système signé en 1976 et encore amplifié en 2008. Nous verrons la prochaine fois comment le stock d'or français devint négatif en 1983 et pourquoi tant de reclassements du stock d'or s'opèrent en ce moment entre beaucoup de pays. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeurs de Radio Silence, à la prochaine fois.